Bonsoir. Moins de divertissement, plus de proximité. La ministre de la Culture dévoile les grandes lignes de la réforme de l'audiovisuel public. Les syndicats de France Télévisions s'inquiètent. Pour la CGT, le service public ne doit pas devenir le grand instituteur du paysage médiatique. L'État pourrait céder une partie de ses parts à Air France. Le gouvernement s'est dit ouvert sur le principe. Le groupe Accor Hotel est prêt à en racheter une partie. Le Premier ministre israélien était à Berlin aujourd'hui. Première étape de sa tournée en Europe avant sa visite en France. Demain. Objectif, convaincre les Européens de durcir le ton face à l'Iran. Pour en parler avec nous, le politologue David Kalfa, il est l'invité de ce journal. Et puis en Jordanie, le Premier ministre quitte son poste après des jours de contestation dans la rue. Mais pas sûr, on le verra, que ce départ calme la colère des Jordaniens. À quoi va ressembler l'audiovisuel public de demain? La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a dévoilé aujourd'hui les grandes lignes de cette réforme très attendue. Des grandes lignes donc, mais pas de chiffres, rien de précis par exemple sur les économies à faire. Pourtant il y en aura, avait prévenu la ministre. Rien non plus sur la réforme de la redevance. Toutes ces questions sont renvoyées à 2019. En revanche, la ministre a précisé les missions que doivent remplir selon elle les chaînes de l'audiovisuel public. Trois mots: proximité, information et éducation. Fini donc les divertissements, c'est ce que craint en tout cas Marc Chauvelot. Il est secrétaire général de la CGT, syndicat majoritaire à France Télévisions.
Le divertissement n'entre plus dans les missions de service public selon la ministre Madame Nyssen. Si Madame Nyssen, le divertissement il est fondamental. On peut avoir une approche du divertissement respectueux de service public qui complète une offre culturelle d'éducation ou d'information. Nous ne voulons pas que France Télévisions devienne le grand instituteur. Non, nous voulons rester un média de masse qui remplisse des missions pour toutes les populations. Et il y a des populations qui attendent nos émissions de divertissement, nos émissions de sport. Et s'ils ont la possibilité dans nos grilles de tomber sur des programmes qui permettent d'élever le niveau, eh bien je pense qu'on aura réussi quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'éloge du grand public, que certains sociologues, et qui est une notion tout à fait importante pour nous. Sinon, le risque est de nous réduire à un petit ghetto culturel d'entre-soi qui ne permettra pas d'assurer les missions universelles du service public. Que des chaînes thématiques existent, ça ne doit pas obérer l'importance d'avoir ces grands rendez-vous fédérateurs pour l'ensemble des populations.
Marc Chauvelot, secrétaire général de la CGT à France Télévisions, au micro de Cécile de Kervas-Doué. Parmi les autres annonces faites aujourd'hui, la fin de France 4 sur la TNT. La chaîne existera désormais sur Internet. Même chose peut-être pour France O, dont le sort n'est pas encore scellé. La ministre souhaite également que France 3 et France Bleu, les locales de Radio France, travaillent plus ensemble, notamment sur le numérique. Sur le dossier Air France, l'État entrouvre la porte à une éventuelle participation du groupe Accor Hotel dans le capital de la compagnie aérienne. Le groupe hôtelier s'est dit intéressé. Pourquoi pas, répond donc le gouvernement, qui explique que la priorité c'est de stabiliser la situation Air France après des semaines de conflits sur les salaires et après la démission du PDG Jean-Marc Janaillac. Actuellement, l'État détient 14,3% d'Air France et Accor Hotel envisage donc d'en racheter une part minoritaire. Delphine Simon.
Bâtir des offres d'avions plus hôtels, l'idée n'est pas neuve. Sébastien Bazin, le PDG d'Accor, l'a remis sur la table à l'occasion de la crise chez Air France. Il propose d'unir les forces des deux géants du voyage. Côté Accor, 620 000 chambres d'hôtels à travers 100 pays sous les marques Sofitel, Mercure, Ibis. Et pour Air France KLM, ses fichiers clients, le nerf de la guerre face aux géants du numérique Expedia et Booking. À ce stade très préliminaire, on n'écarte aucun scénario. Accor pourrait racheter tout ou partie des parts de l'État, 14% des actions, vous l'avez dit, mais 22% des droits de vote, voire procéder à un échange d'actions. Avantage pour l'État, en finir avec son rôle d'éternel recours en cas de conflit chez Air France. Interrogée sur le site Boursorama, la secrétaire d'État Delphine Gény-Stéphane ne ferme ce soir aucune porte.
Le gouvernement est ouvert sur le principe dès lors que il y a une discussion entre les deux entreprises qui fait apparaître un projet industriel qui tient la route et qui crée de la valeur pour les entreprises.
En attendant, la priorité pour Bercy, c'est de nommer un nouveau PDG à la tête d'Air France d'ici septembre. Accor, de son côté, fait savoir que le projet n'a de sens que s'il détient certains leviers sur la gouvernance de la compagnie. Une façon de rassurer les marchés, pas très chaud. La nouvelle a plombé le cours de bourse d'Accor, moins 7% ce soir à la clôture.
Delphine Simon. Le parquet financier ouvre une enquête après la plainte déposée par l'association Anticor contre le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Une enquête sur d'éventuels conflits d'intérêts entre des postes que ce proche d'Emmanuel Macron a occupés dans la haute fonction publique et ses relations personnelles et professionnelles avec la société MSC. MSC, armateur italo-suisse et principal client des chantiers STX de Saint-Nazaire. L'enquête devra donc déterminer si les relations d'Alexis Kohler posent problème ou pas. Lui affirme qu'il a toujours tenu à informer sa hiérarchie de ses liens. De son côté, l'Élysée dénonce des soupçons totalement infondés. À Carrefour, le scénario catastrophe redouté par les syndicats se confirme. 29 magasins seulement sur 273 ont trouvé des repreneurs. La direction le confirme aujourd'hui. Tous les autres vont mettre la clé sous la porte. 1800 emplois sont menacés. Benjamin Netanyahou était en Allemagne aujourd'hui pour rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel. Première étape d'une tournée de 3 jours en Europe avec un objectif pour le Premier ministre israélien, convaincre les Européens d'infléchir leur position à propos de l'accord sur le nucléaire iranien. Israël veut durcir le ton face à Téhéran. De l'autre côté, les Européens veulent sauver ce qui peut encore l'être dans cet accord malgré le retrait des États-Unis le 8 mai dernier. Mais sur cette question, la chancelière allemande est restée inflexible. À Berlin, Cyril Sauvageau.
Benjamin Netanyahou avait prévenu, sa visite en Europe porterait sur 2 sujets, l'Iran et l'Iran. À Berlin, le Premier ministre israélien est donc passé à l'offensive avec cette mise en garde à Angela Merkel. Si l'Allemagne ne se montre pas plus ferme avec l'Iran, alors il faut se préparer à un nouvel afflux de réfugiés syriens. Car selon Israël, l'objectif de Téhéran est de provoquer une guerre de religion en Syrie. Preuve de l'agressivité de l'Iran dans la région, ce tweet du guide suprême iranien cité par Benjamin Netanyahou, Israël est une tumeur cancéreuse qu'il convient d'éradiquer. Des propos fermement condamné par Angela Merkel en conférence de presse, mais la chancelière n'a pas changé d'avis sur le maintien de l'accord nucléaire. Notre but est le même, dit-elle, empêcher l'Iran d'acquérir la bombe, mais nous ne sommes pas d'accord sur les moyens d'y parvenir. Nous croyons encore à des négociations. Une ligne similaire à celle que devrait défendre Emmanuel Macron demain à Paris. Prochaine étape de cette tournée en Europe du Premier ministre israélien.
Une tournée qui se poursuit donc chez nous en France demain. Benjamin Netanyahou doit rencontrer Emmanuel Macron dans la soirée. Et l'on poursuit sur ce sujet avec vous, David Kalfa. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Est-ce que cette première rencontre entre Benjamin Netanyahou et Angela Merkel est positive pour le Premier ministre israélien, selon vous ?
Il faudra attendre un petit peu, mais enfin, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'à ce stade, ce qui occupe le centre de l'attention, c'est bien sûr le dossier du nucléaire iranien, sur lequel il y a des divergences de vues entre Israël d'une part, l'Allemagne et la France d'autre part, avec notamment sur la question de la sortie de l'accord par les Américains. Et on voit bien, pour l'instant, en fait, ce qui est en train de se dérouler, ce sont des jeux de négociation derrière les coulisses, avec un rapport de force qui est assez clair, puisqu'encore une fois, les Américains se sont retirés de l'accord, et les Européens essayent de le sauver. Et pour cela, Israël, Netanyahou, son Premier ministre, essaye de convaincre les Européens la nécessité, pour sauver cet accord, de le renforcer de manière conséquente, notamment sur 3 principaux points. Le premier, c'est la question du balistique, le programme de missiles balistiques iranien. Le second, c'est la fameuse clause, la Sunset Clause, dont l'application de l'accord sur le nucléaire jusqu'en 2025. Donc, trouver une porte de sortie pour une application là 2025. Et enfin, l'implantation militaire de l'Iran en Syrie.
Est-ce que, selon vous, cet entretien avec Angela Merkel va donner le ton des 2 prochaines rencontres et d'abord de celle entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron demain ?
Sans doute, enfin, ce qu'on a déjà vu lors de cette rencontre, ce qui est intéressant, c'est notamment la convergence sur la question du rôle de l'Iran au Moyen-Orient et les préoccupations de Merkel sur le programme balistique iranien. Je rappelle d'ailleurs qu'à ce titre, le président français Emmanuel Macron avait déjà insisté, avant même la sortie américaine de l'accord sur le nucléaire iranien, la nécessité de le renforcer, cet accord, et notamment d'essayer de pallier à ses faiblesses structurelles. Il avait parlé à l'époque d'une stratégie fondée sur 4 piliers qui incluait justement la nécessité d'entraver le programme balistique iranien et de contrecarrer ses ambitions régionales. Donc oui, en effet, ça campe, si vous voulez, en quelque sorte déjà le débat. On voit bien qu'il y a là, pour le coup, sur ce sujet plutôt, dirais-je, géostratégique, géopolitique, une convergence de vues avec le Premier ministre israélien. En revanche, sur la question de l'accord lui-même, sur la sortie du JCPOA et ses conséquences, les divergences se maintiennent, les positions se raidissent. On l'a vu très récemment avec les déclarations ce matin de Khamenei, le guide suprême de la révolution islamique, sur Israël qu'il faudrait éradiquer, et sur les préconditions qu'il pose au maintien de l'Iran dans l'accord. Il y en a 7, parmi lesquelles, justement, pour lui, il n'est pas question de mettre en cause le rôle régional de l'Iran au Moyen-Orient et de toucher à son programme balistique. Donc là, les Européens comme les Israéliens devront trouver un moyen terme pour arriver justement à faire en sorte qu'il n'y ait pas simplement face à face entre Washington et l'Union européenne et que, à minima, une sortie de crise par le haut via un accord renforcé soit trouvée. C'est très difficile.
Justement, de quels arguments dispose Benjamin Netanyahou pour convaincre les Européens sur ce dossier du nucléaire iranien ?
Il y a d'abord en fait des intérêts communs en termes de lutte contre la prolifération nucléaire. Ni les Américains, ni les Européens, ni les Israéliens ne veulent évidemment d'un Moyen-Orient, qui est déjà une région chaotique et où moins qu'on puisse dire, c'est que la stabilité n'y règne pas. Un Moyen-Orient qui verrait en quelque sorte une course à l'armement nucléaire. Les Saoudiens ont déjà annoncé la couleur. Les Turcs aussi pourraient se déclarer aussi en faveur de l'acquisition du nucléaire à minima du nucléaire civil. Donc là, il y a un intérêt commun des Européens et des Israéliens à éviter cette course à l'armement. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est ce que moi je qualifierais de carte saoudienne. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'en réalité, on n'est pas vraiment dans un tête-à-tête entre Netanyahou et l'Union européenne. Ce qu'il y a là-dedans aussi, un axe qui s'est cristallisé ces dernières années, et en particulier depuis l'accession de Trump à la Maison-Blanche, entre Washington, Jérusalem et Riyad. Sur cette question, il y a un front commun, il y a une convergence de vues, puisque Riyad comme Jérusalem se sont félicités de la sortie américaine de l'accord. Donc là, il y a la carte saoudienne. Alors pour la France, l'Arabie saoudite, c'est un partenaire commercial mineur. Mais je rappelle quand même que en ce qui concerne l'industrie de la défense française, en termes de vente d'armes, ce n'est absolument pas mineur, c'est même très conséquent. Donc là, il y a une carte saoudienne que pourrait jouer Netanyahou. D'ailleurs, on l'a bien vu sur l'Allemagne, que les Saoudiens ont récemment pris la décision d'exclure les compagnies allemandes de leurs appels d'offres. Donc là, c'est évidemment, les conséquences économiques pour la France comme pour l'Allemagne pourraient être catastrophiques. Donc là, il y a un levier économique que pourrait utiliser Netanyahou, puisque c'est l'intérêt des Européens d'éviter que leurs grandes entreprises ne soient impactées par les sanctions économiques américaines.
Merci David Kalfa. On rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. On part en Jordanie maintenant, où le Premier ministre a démissionné aujourd'hui. Il faisait face à une vague de contestations contre la politique d'austérité dans le pays. Des milliers de Jordaniens ont manifesté ces derniers jours contre l'élargissement de l'impôt sur le revenu aux citoyens les plus modestes, contre la hausse des prix du carburant et de l'électricité aussi. Le roi Abdallah n'a donc pas tergiversé. À Amman, Jérôme Boruvevski.
Il fallait aller vite pour faire taire les critiques. Le roi lui-même faisait l'objet de reproches. Des manifestants regrettaient qu'il ne se soit pas placé plus franchement du côté de ceux qui souffrent de l'inflation. Il fallait aussi aller vite car le pouvoir veut éviter que la crise sociale ne se transforme en une crise politique majeure et qu'elle ne déstabilise le pays. Or, il y a danger. Tous les ingrédients d'un soulèvement plus important sont réunis en Jordanie. Il y a tout d'abord une défiance généralisée à l'égard de la classe politique. Les élites sont accusées de corruption. La population a le sentiment qu'un énorme fossé la sépare des dirigeants. Il y a ensuite en Jordanie une crise de la représentation. Il y a enfin un fort sentiment d'injustice au sein de la population, sentiment renforcé par les augmentations répétitives des taxes. Mais la démission de Hani Mulki ne règle pas tout. Les manifestants aspirent à un changement de système, pas simplement à un changement de personne. Sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, la nomination du nouveau Premier ministre suscite déjà des témoignages amers. Il s'appelle Omar Razaz, il fait partie de l'équipe sortante, il était ministre de l'Éducation, il a travaillé à la Banque mondiale. Cette expérience n'est pas forcément un atout en termes d'image. car ces derniers jours, les manifestants s'opposaient aux réformes fiscales qui, justement, avaient été négociées avec les institutions financières internationales.
Jérôme Boruzewski, correspondant de France Culture à Amman. Il va y avoir encore des orages cette nuit. Météo France maintient 14 départements en vigilance orange. Dans le nord-ouest, on attend de fortes pluies, de la grêle et de la foudre en début de nuit. Et dans le nord-est, ensuite, une deuxième vague d'orages est attendue ce soir et pendant une partie de la nuit. Dans le reste du pays, demain matin, ce sera de la pluie au nord et au sud-ouest et du soleil pour le sud-est. Ce journal a été préparé avec Annie Brault et Anthony Thomasson.